Nous avons à ce moment-là, bien sûr, répondu à l'appel de notre Père qui désirait, n'est-ce pas, que ses enfants se réunissent là, aux endroits qu'il avait choisis pour eux. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quelle approche devons-nous retirer, non seulement des fêtes, mais de toutes les bénédictions que Dieu nous donne? Il y a une expression qu'on utilise aujourd'hui qui est une ancienne expression. L'action de grâce, qui veut dire tout simplement la gratitude, le remerciement. Et nous, au Canada, nous vivons dans un pays où même nous avons un jour férié qui s'appelle le jour de l'action de grâce. Ça existe également aux États-Unis et dans quelques autres pays. Par exemple, ça existe à la Grenade, à Sainte-Lucie, au Libéria. Officieusement, dans les pays tels que le Brésil et les Philippines, l'action de grâce est célébrée également dans une ville néerlandaise, celle de Leiden, et dans le territoire australien de l'île Norfolk. Il y a donc quelques manifestations d'un jour mis à part à quelques endroits dans le monde. Et c'est intéressant parfois d'étudier ou de regarder un peu l'origine de ce qui a amené qu'on mette de côté un jour qui s'intitule l'action de grâce. Ça a des origines parfois religieuses, parfois civiles, parfois une combinaison des deux. Par exemple, le premier jour d'action de grâce qui a été tenu par des Européens qui ont fait la traversée vers l'Amérique du Nord a été tenu par Sir Martin Frobisher et son équipage dans l'Arctique en 1578. Alors, je pense que juste le fait qu'ils aient réussi à traverser l'océan et à survivre dans l'Arctique, hein, dans des conditions climatiques froides, parce qu'ils espéraient trouver le passage par le nord. Ben, ils ont mangé un repas de bœuf salé, de biscuits, de pois pâteux pour célébrer et remercier Dieu pour leur arrivée en toute sécurité dans ce qui est maintenant appelé le Nunavut, donc c'est un territoire inuit. Mel Simoneau, qui est un poète et un écrivain de la ville de Gatineau au Québec, a publié dans un journal qui s'appelle, c'est un journal indépendant qui s'appelle The Ottawa Citizen, il y a 2 mois de ça, parce que c'est à peu près à cette époque-là qu'au Canada, on souligne l'action de grâce. Aux États-Unis, on le souligne dans ces semaines-ci. Il explique qu'au début du XVIIe siècle, l'explorateur français Samuel de Champlain a célébré un grand repas de remerciement en Nouvelle-France. Une partie du raisonnement de Champlain pour un repas festif était de vaincre le scorbut qui avait auparavant anéanti ou presque anéanti une colonie. Alors, le scorbut est une maladie par l'absence de certaines, aujourd'hui on dit des vitamines, donc certaines propriétés nutritives, entre autres la vitamine C, qui peut être mortelle. Aujourd'hui, on prend peut-être pour acquis la nourriture que l'on a. Il a établi, par exemple, une série de repas variés avec une meilleure nutrition, par exemple les canneberges. Les canneberges sont originaires aussi de l'Amérique, qui était riche, on le sait aujourd'hui, en vitamine C, est devenu un élément de base régulier. Au 18e siècle, un autre exemple, les colons de la Nouvelle-Écosse ont festoyé d'un repas d'action de grâce qui avait plutôt la dinde et des accompagnements d'aujourd'hui. Alors, ça a varié selon les endroits et les dates ont varié. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces réalités, vécues souvent à cause d'épreuves, ont porté certains fruits. le fruit de la reconnaissance, du moins pendant quelques jours, dans certains pays. Vous savez, dans ces temps difficiles que nous vivons, frères et sœurs, il y a un passage dans la deuxième lettre à Timothée que vous allez reconnaître un mot parmi tant d'autres. Dans la deuxième lettre à Timothée 3, versets 1 à 2, il est dit ceci. Sache que dans les derniers jours, deuxième lettre à Timothée 3, versets 1 à 2, sache. Nous devons savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. J'ai déjà expliqué qu'aujourd'hui, on pourrait dire narcissiques. Amis de l'argent, oh oui, fanfarons, on a parlé d'arrogance tout à l'heure, hautains, blasphémateurs. Quand on change les lois bibliques, on est blasphémateur. Rebelles à leurs parents, et combien? Et regardez le prochain mot. Il attire l'attention parce qu'il est tout court, hein? Ingrat, suivi de irréligieux et de d'autres mots, mais ingrat. Les gens seront ingrats. Ça veut dire qu'ils manqueront donc de gratitude, de reconnaissance, n'auront pas cette habilité ou ce désir d'être plein de remerciements. Avez-vous entendu, depuis que vous êtes surtout converti, parler de gens qui blâment leurs parents au point qu'ils disent « j'aurais jamais dû me mettre au monde ». Je ne sais pas si vous aimeriez que votre enfant vous dise « tu n'aurais jamais dû me mettre au monde ». Je pense que c'est peut-être dit dans la détresse, mais c'est quand même un signe d'ingratitude. La gratitude, frères et sœurs, la reconnaissance est un trait nécessaire dans la famille divine. On va en parler donc, mais on va voir rapidement, si vous voulez, trois écritures. On peut dire les mettre en rafale. D'abord, la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, qui sont des exhortations, des encouragements justement à rechercher la gratitude. Et on va voir des exemples ensuite de personnes dans la Bible qui nous donnent des leçons de gratitude. On va essayer d'en tirer un peu les points communs qu'ils ont sur ce envers quoi on doit être rempli de reconnaissance. Et j'espère terminer avec quelques petits trucs pour développer toujours davantage la gratitude, l'action de grâce. D'abord, Éphésiens 5, verset 20. La lettre aux Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toute chose. D'abord à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a déjà là beaucoup d'aspects, mais l'exhortation est quand même très claire. L'autre passage en rafale, la lettre aux Colossiens, il n'y en a qu'une du moins qui nous est parvenue, la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 12. On nous donne une raison. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, on voit cette importance-là. On voit ce vers quoi on doit être reconnaissant ici, c'est que Dieu nous a rendus capables. Donc, il peut nous rendre capables d'avoir part à l'héritage. Il nous a rendus capables, bien sûr, en nous ouvrant les yeux sur nous-mêmes, sur Jésus-Christ, sur son courage dont nous avons entendu parler tout à l'heure par José, qui disait que, n'est-ce pas, Jésus a accompli, a réussi là où nos arrière-grands-parents ont échoué et où nous avons bien sûr échoué. Troisième passage, en rafale, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, 5, 18. Et ça ressemble un peu à ce qui a été dit dans la lettre aux Éphésiens. Rendez grâce, encore une fois, en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, comment on fait ça? Ben, d'abord, voyons comment certains l'ont fait. Ça peut nous donner de l'inspiration, parce que parfois, on tombe un peu dans la routine, on tombe un peu dans le fait qu'on manque de voir certaines de nos bénédictions, où on est comme un peu comme, je dirais, un peu comme blasé. Hein? Vous savez, il y a une célèbre chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est d'un auteur, elle a été traduite en français. C'est un auteur américain qui s'appelle Matt Redman. C'est un chant de reconnaissance à Dieu qui est intitulé Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Et c'est une chanson qui a été inspirée à partir de Job 1, 20 à 21. Je pense qu'on connaît l'histoire de Job, mais je pense que ça vaut la peine de regarder notre premier exemple de reconnaissance qui est celui de Job et en quoi il a été reconnaissant. Une chanson a été composée là-dessus. J'espère pouvoir vous citer quelques-unes de ces paroles qui nous donnent un peu la leçon que Job nous enseigne. Job, chapitre 1, versets 20 à 21. Job déclare ceci, après, n'est-ce pas, avoir tout perdu. Pas sûr que ça aurait été ma réaction, là, initiale. Alors Job se leva lorsqu'il a appris, n'est-ce pas, la perte de ses biens, la perte de sa maison, la perte de ses enfants. Je me souviens, un de nos frères qui a appris, je pense, c'était par courriel, une catastrophe. Il était là, il nous a partagé que son oncle avait en une seule heure, à cause d'un ouragan, d'une tornade, en fait, avait perdu sa maison, sa voiture, avait, bien sûr, tout le village avait été détruit, donc c'était aussi un peu, dans un sens, son emploi. Et cet oncle-là de notre frère avait quand même dit, ben, Dieu merci, je suis en vie. Mais Job se leva, déchira son manteau, quand même signe de deuil, signe quand même de désarroi parce que il avait perdu entre autres ses enfants bien-aimés, se rasa la tête, puis se jetant par terre, on peut exprimer bien sûr la douleur, le deuil à Dieu, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Regardez ce réalisme-là. Vous savez, le christianisme est une religion de réalisme. Je parle, la vraie pensée de Jésus le Christ est que nous sommes mortels, que notre destination initiale est la terre, hein, c'est de se retourner dans la terre. Et malgré nos gains et nos pertes, nous savons notre destinée première. Bien sûr, nous avons aussi une révélation additionnelle, c'est que notre héritage est la vie éternelle. Mais notre première destination, hein, c'est retourner d'où nous sommes venus. L'Éternel a donné, il a donné la vie, il a donné la respiration, il a donné la nourriture, il a donné le fait qu'on puisse travailler, il a donné les enfants, il a donné la famille. L'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, on voit ici l'entraînement, la réponse, on pourrait dire, profonde de Job dans l'épreuve, c'est de ne pas voir seulement ce qui se passe autour de lui, les circonstances, mais voir, se rappeler d'où sont venues les bénédictions et le droit de Dieu de les donner et de les reprendre. Wow! J'avoue que c'est une grande leçon dont je suis en processus, hein, d'apprendre. Je suis pas rendu là encore. Alors, quand Job était au milieu de cette tourmente de grande perte, il a choisi de remercier Dieu qui donne et qui enlève. C'est une attitude, c'est une approche, c'est un cœur qui dit merci quand même dans les circonstances d'un chagrin, et c'est pour nous, bien sûr, un modèle en tant que croyants. Il a choisi de permettre à ses luttes de glorifier le Seigneur. Laissez-moi vous donner quelques paroles de ce chant tel que traduit en français, le chant de Béni soit ton nom de Matt Redman. Vous pouvez simplement mettre Matt Redman, Béni soit ton nom, et vous allez voir, ça va apparaître en français. Et je vous encourage à écouter ce simple chant, mais qui exprime une assez bonne profondeur dans la reconnaissance. Béni soit ton nom dans le pays de lait de miel, où coulent tes flots d'abondance, béni soit ton nom. Quand je me tiens dans l'endroit désert, bien que je marche dans la disette, béni soit ton nom. Pour que tu déverses, pour chaque bénédiction que tu déverses, je vais te remercier et te louer. Quand les ténèbres se referment, Seigneur, je vais quand même dire, béni soit le nom du Seigneur. Quand le soleil brille sur moi, quand le monde est tout ce qu'il devrait être, béni soit ton nom. Sur la route marquée par la souffrance, bien qu'il y ait de la douleur dans l'offrande, béni soit ton nom. Alors, vous voyez, hein, on a tendance à remercier Dieu pour quand ça va bien, mais Matt Redman a comme compris grâce à la parole chez Job que c'est béni soit ton nom de toute façon. Wow, pour moi, c'est un exemple. Job est pour moi un exemple. C'est le premier. Un deuxième exemple qui nous vient probablement à l'esprit, mais du moins je vais vous le donner. Anne, la mère de Samuel. Anne, la mère de Samuel, vous savez, Anne était dans une situation un peu difficile parce que il arrivait à l'époque que parfois on pouvait être marié à un homme qui avait une autre épouse. Et comble de malheur pour elle, non seulement elle avait peut-être la faveur de son mari, ce qui n'est pas bon pour l'autre en passant. Ah, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit finalement, il est mieux d'être marié n'est-ce pas, un seul conjoint, parce que c'est le plan de Dieu dans toute sa précision. Anne avait un autre problème, c'est qu'elle était stérile, c'est-à-dire que elle ne servait pas à grand-chose à ses propres yeux pour permettre à la famille de s'agrandir pour et avec son mari. Alors, après de nombreuses années d'infertilité et de chagrin, nous allons voir que dans sa prière, elle a éventuellement fait une entente avec Dieu. Et vous savez quelle est cette entente? C'est, écoute, Dieu, je suis vraiment dans la détresse. Ça fait des années que je te demande quelque chose. La réponse est non. Mais mon désir est toujours oui. Mon besoin est oui. Je me sens vraiment dépouillé si je n'ai pas d'enfant. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on connaît l'histoire, c'est que elle a prié au temple. Le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, vu qu'elle versait des larmes et qu'elle priait seulement en articulant sans son, sa prière, il pensait qu'elle était ivre, il pensait qu'elle était comme un peu perdue, et il a dit, ben, qu'est-ce que tu fais ici, là? Et elle a dit, non, non, je suis en train de prier parce que je suis complètement découragée. Je demandais à Dieu d'avoir un enfant. Et l'idée qui lui est venue, c'est que elle pourrait demander à Dieu un enfant et elle ferait la promesse de le consacrer au temple de Dieu. Et on sait ce qui s'est passé. Regardons Samuel 1, D'abord, verset 26. Verset 26. C'est Anne qui retourne au temple après que l'enfant a été sevré, donc après quelques années où elle a porté, elle l'a nourri au sein. Elle s'est attachée pour que l'enfant, à son enfant, pour que l'enfant puisse avoir un bon lien avec sa mère, d'ailleurs, qui va continuer, on le voit, parce qu'elle va le visiter. Mais elle avait une promesse à tenir. Et justement, ils vont monter au temple. Et en fait, au temple, c'est qu'en fait, c'est plutôt c'est le tabernacle à l'époque. Et ils vont finalement amener l'enfant tel que promis et le donner au service du temple, du tabernacle. Alors, elle rencontre Élie, ce souverain sacrificateur, qui avait dit, ta prière est exaucée, retourne chez toi, ta prière est exaucée. Alors, Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme dit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Il y a quelques années de ça. C'était pour cet enfant, donc elle lui présente l'enfant, que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, verset 28, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et je suis sûr qu'il n'y avait aucune arrière-pensée chez Anne, aucun regret. Elle était tout simplement reconnaissante que Dieu lui avait permis de mettre au monde un enfant et en plus, elle le consacrait à Dieu. On voit donc que sa gratitude, sa reconnaissance va au-delà même du lien maternel. Ça va dans un lien spirituel. La gratitude est une émotion, est un état d'âme qui peut naître dans les circonstances difficiles. Troisième exemple, qui est une surprise au niveau d'un roi. Quel est le roi qui a créé la plus grande surprise? Par son changement, par sa conversion. Si on lit tout le livre des rois, en fait, les plusieurs livres des rois, il y a des rois qui nous sont présentés, les premiers rois dans 1 et 2 Samuel, qui sont bien sûr Saül et David, mais ensuite, il y a les premiers rois et deuxièmes rois qui nous présentent beaucoup de rois en Israël et beaucoup de rois en Juda. Et il y a un roi parmi eux qui était wow, il était vraiment dans la mauvaise direction. On peut lire son histoire dans 2 Chroniques 33. On ne le voit pas dans le livre des rois. C'est comme si le livre des rois dit, oh, non, non, on n'en parlera pas de ce roi-là. Du moins, on va en parler, mais on va juste dire tout le mal qu'il a fait. Révision par le chroniqueur, on l'appelle comme ça, celui qui a eu le travail de nous laisser 1 et 2 chroniques, il y a une information additionnelle qui nous est donnée qui va nous surprendre, je pense. Moi, ça m'a surpris. 2 chroniques 33, verset 11. Alors, il s'agit du roi Manassé, qui était le fils d'un roi incroyable, qui, si je ne me trompe pas, était Josias, qui est un excellent roi, mais lui, le fils, a été complètement dans l'autre direction. Tout le bien que son père a fait, non seulement il a fait le contraire, mais il a tout démoli ce que son père a fait. Alors, en conséquence, on lit au verset 11, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Il a été mis en prison. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Donc, il était là, prisonnier. Verset 12, la surprise. Lorsqu'il fut dans la détresse, donc c'est bon des fois la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Donc après avoir marché contraire à toutes les instructions de Dieu, le roi Manassé fait un volte-face complet. Ça nous fait penser un peu à Paul, hein, il s'appelait Saul, et finalement il a fait un volte-face, mais oui, Jésus-Christ il a. Il a fait une petite apparition sur la route de Damas. Et là, on lit au verset 13, que sa repentance a amené un changement de comportement. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, l'idole. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Voyez-vous, pour lui, Dieu était intervenu dans sa vie, l'avait libéré de sa folie. Il en était extrêmement reconnaissant et il l'a exprimé ouvertement dans sa position de roi, bien sûr, selon l'ordre des sacrificateurs. C'est bien sûr les sacrificateurs qui faisaient l'offrande, mais c'est lui qui apportait, bien sûr, ce qui était nécessaire à l'offrande. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, un bel exemple de changement, de conversion qui nous amène à un état de reconnaissance en trouvant les moyens que Dieu a donnés à l'époque de l'exprimer par le don, n'est-ce pas, d'animaux nécessaires pour faire ces sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Un autre exemple, Marie. Marie, on parle de Myriam, en fait, c'est l'original hébreu, qui va, elle aussi, montrer sa reconnaissance dans circonstances assez spéciales. Si on vit, si on regarde son histoire, si on la met transposée aujourd'hui chez les adolescentes, je pense que la plupart ont été terrifiées ou renversées qu'un ange leur dise qu'elles seraient enceintes. La question est combien d'entre elles garderaient l'enfant? Ça, c'est déjà la question aujourd'hui. Et qui serait prêt à endurer la risée, les paroles mauvaises parfois ou les rumeurs qui auraient lieu à son sujet parce qu'elle n'était pas encore mariée. Elle était fiancée, mais n'était pas encore mariée à l'époque. Bien sûr, aujourd'hui, c'est courant, c'est courant, mais à l'époque, c'était extrêmement pressurisant, difficile pour une jeune fille. En fait, ça aurait pu être amené jusqu'à la lapidation. Ça vous montre qu'on a changé un petit peu de société depuis l'époque. Mais il y avait un poids de responsabilité qu'elle devait porter. Elle ne savait pas exactement, mais elle savait que c'était Dieu qui l'amenait dans ce genre de cheminement, dans ce genre d'expérience. Et quelle a été sa réplique? Quelle a été sa réponse? Quelle a été sa réaction? Alors, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 38. D'abord, sa réaction était, eh bien, moi, je suis une servante. Je suis la servante du Seigneur. Marie lui dit, voici, je suis la servante du Seigneur, que ce soit pour moi selon sa parole, selon ta parole. Alors, elle reconnaît dans l'ange un serviteur de Dieu. Elle-même se reconnaît comme servante de Dieu. Elle, remarquez que j'ai utilisé deux fois, elle reconnaît. Vous savez, quand on reconnaît les vraies choses, on a de la reconnaissance. Reconnaître la vérité, c'est nous amener à être reconnaissants. Reconnaître que Dieu nous enseignait quelque chose que nous ignorions ou que nous faisions mal, c'est la route vers la reconnaissance envers Dieu. Je reconnais, Dieu, que tu es intervenu dans ma vie pour que je puisse comprendre ce que je comprends, et j'ajouterai, et je ne l'oublie pas, je ne l'oublierai pas. Et c'est à ce moment-là, on ne le lira pas, mais suit le cantique de gratitude, de louange que Myriam, Marie, la mère de Jésus, va donner. C'est listé au vers, des versets 46 à 55. Donc, 10 versets qui vont exprimer ce que Marie reconnaît dans ce qu'elle vit, le plan de Dieu au fond. Elle reconnaît des aspects du plan de Dieu. Un autre exemple, et c'est intéressant parce qu'il s'est démarqué par le fait qu'il était le seul parmi un groupe à l'exprimer sa reconnaissance. Pas que les autres n'étaient pas contents, pas que les autres n'ont pas apprécié ce qu'ils ont vécu, mais ils n'ont pas pensé à remercier d'où ça venait, la personne qui était l'outil de Dieu pour transmettre la bénédiction. Alors, c'est l'exemple hein, qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc aussi, mais un peu plus loin, au chapitre 17. C'est l'histoire, bien sûr, des 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus-Christ, mais seulement un a exprimé sa reconnaissance. Alors, on va prendre au verset 15. On est au milieu du récit. Vous pouvez voir ce qui précède à la maison. Mais l'un d'eux, dont l'un des 10, se voyant guéri, revint sur ses pas. Alors, donc, il était déjà, lui, sous l'enthousiasme. Tout le monde était content. L'idée, c'était d'aller retrouver sa famille. L'idée, c'était d'aller à tout le monde, d'abord, aller se présenter au sacrificateur. Ça, c'était l'ordre des choses. De se diriger puis se faire, n'est-ce pas, approuver comme étant guéri pour pouvoir réintégrer la vie normale tous les jours. Je les comprends un peu qu'ils étaient pas mal partis déjà à vouloir se réjouir avec leurs proches. Mais il y en a un qui a pensé à son affaire un petit peu plus profondément. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il s'est arrêté à un moment donné et dit, hey, j'ai oublié quelque chose. Glorifiant Dieu à haute voix. Déjà, quand même, il exprimait sa joie à Dieu. Oui, il remerciait Dieu. Mais il devait aussi remercier l'instrument de Dieu, par qui Dieu avait passé pour apporter cette bénédiction. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il montra sa gratitude. Remarquez que le mot grâce se trouve dans le mot gratitude, que c'est la même origine de mot. C'est latin, c'est parent. Il lui rendit grâce, il montra sa gratitude. C'était un Samaritain. Déjà là, c'est en disant, ce n'est pas parce qu'il était nécessairement élevé dans la compréhension du Dieu d'Israël. Ce n'est pas parce qu'il connaissait sa Bible nécessairement qu'il a fait cela. Non, c'est parce qu'il avait développé l'habitude de remercier surtout la personne par laquelle il recevait une bénédiction. Et là, bien sûr, c'était Jésus. Et c'était encore plus grand par le fait qu'il a reconnu finalement que Jésus n'était pas n'importe qui, au point que même il est tombé sur sa face, aux pieds de Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Voyez-vous, Jésus-Christ s'attendait à l'expression de la gratitude. Parce que c'est bon pour nous. Ne s'est-il trouvé que cet étranger, hein, verset 18, pour revenir, ou un peu se repentir, faire volte-face et donner gloire à Dieu, puis se dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a une connexion donc, entre la foi et la gratitude et la guérison. Sixième exemple, ben, il ne faut pas bien sûr négliger l'exemple de notre Créateur, de Jésus-Christ, par qui le Père a créé toutes choses. C'est sûr que c'est le modèle de reconnaissance parfait, Mais nous allons voir que certaines circonstances, d'abord la première, on va la voir dans l'Évangile selon Luc, qui est intéressant parce que Jésus-Christ va remercier Dieu dans une ambiance même où c'est, on pourrait dire, mi figue, mi raisin. C'est tout amer. Jésus-Christ vit beaucoup de rejets, mais en même temps, il y a du succès. Et qu'est-ce que c'est? C'est en Luc 10, 21, c'est que il se rend compte que la parole qu'il donne, les connaissances qu'il transmet ne sont pas reçues par ceux qui pourraient, pourtant, étaient les mieux équipés pour comprendre la valeur de ce qu'il disait, c'est-à-dire l'élite religieuse, l'élite qui connaissait beaucoup la parole de Dieu, qui l'avait étudiée profondément. Profondément, du moins, intellectuellement. Mais elle est accueillie par des petites gens. Et en ce moment même, je vais lire le verset 21, vous pouvez voir le contexte vous-même. Jésus, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il a eu un de ces beaux moments dans sa vie où c'était l'Esprit de Dieu qui lui transmettait une joie ineffable. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché. Voyez-vous, il a vu que c'était l'idée de Dieu de cacher ces choses aux sages et aux intelligents. Là, il a compris. Waouh, c'est vraiment étonnant. Je le vois de mes yeux. Je le vis. Ce qui a été annoncé dans les prophètes, je le vis. Je vois que les résultats sont vers les petites gens parce qu'il ajoute, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Est-ce que, frères et sœurs, nous nous réjouissons de ce que nous sommes des enfants? Que nous avons une attitude, ou nous l'avons eue, j'espère que nous ne l'avons pas perdue, nous avons une attitude infantile, permettez l'adjectif, où nous avons accueilli les choses telles qu'elles étaient. Les choses de Dieu, la simplicité de Christ. De ce que tu les as révélées aux enfants, oui, Père, je te loue. Et dans l'hébreu, le mot louer et remercier, c'est tellement, ça va ensemble. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Voyez-vous, même s'il y avait un rejet, il y avait un succès. Et Jésus-Christ voyait la partie qui fonctionnait en disant, ben, celle qui fonctionne pas, ben, ça fait partie du plan de Dieu aussi. Alors, si, nous pouvons nous aussi être parfois bouleversés si quelqu'un, par exemple, se détourne de l'espoir du salut. Hein, on a vécu des moments difficiles là-dessus. On a vécu des abandons. On a vécu des gens en lesquels on avait espéré des fois. On avait investi même. Nous pouvons même nous culpabiliser en disant nous n'avons peut-être pas donné assez le bon exemple. Nous n'avons peut-être pas été assez adroits dans notre relation avec cette personne-là. Oui, on a des leçons à prendre encore et encore, mais Jésus, qui était parfait, lui, a eu une réaction parfaite parce qu'il a fait la part des choses. Il a dit, oui, il y en a qui rejettent, mais il y en a qui acceptent. Oui, il y en a qui vivent en s'éloignant de Dieu, mais il y en a qui vont vers. Alors, c'est quand même encourageant. Jésus-Christ a montré sa reconnaissance à plusieurs autres situations. Mais j'aimerais qu'on en retienne une à cause, on l'utilise à chaque année, et j'espère que ça ne devient pas redondant, ça ne devient pas comme un peu trop souvent. Mais je pense que si on regarde à nouveau cette parole dans l'Évangile selon Matthieu 26, c'est de comprendre que Jésus-Christ a pris la peine de montrer sa reconnaissance même dans une situation qui n'était pas évidente. Il y avait une tension incroyable sur lui. Il savait qu'il prenait la dernière part, c'est-à-dire il savait que ça y était maintenant, que c'était venu le moment où il allait être sacrifié, qu'il avait d'ailleurs annoncé plusieurs fois en montant à Jérusalem. Et c'est à une de ces fois-là, en pensant que Pierre a essayé de le dissuader d'y aller. Donc, José nous a parlé tantôt. Matthieu 26, dans ces circonstances-là, regardez, verset 26, pendant qu'il mangeait, vous savez, on mange nous aussi, hein? On est à ce repas, mais un repas très significatif. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce. Oui, c'est sûr que c'était son habitude. Il l'a fait, par exemple, devant tout le monde lorsqu'il a donné les 5 000 pains distribués, hein, plutôt qu'il a nourri les 5 000 personnes, les 5 000 hommes. Et voilà que ici, il est plus en intimité. Oui, il remercie Dieu, mais quand on comprend ce que la signification, que toutes les souffrances qui étaient incluses dans ce modèle de pain et de vin, bien de coupe, hein, la coupe de souffrance qu'il allait prendre, ben qu'est-ce qu'il fait? Il prit en verset 27 ensuite la coupe, une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Donc, une question de, dans ce simple geste que nous faisons à tous les repas ou que nous essayons de faire, on ne veut pas que ça devienne juste un rituel, on ne veut pas que ça soit dépourvu de signification, mais c'est vrai, on reconnaît que des fois, on a hâte de dire, bon, on a fait la prière, là, on mange. Ou d'autres fois, on trouve que oh, c'est de la routine, hein? Mais dans des moments comme ça, rappelons-nous qu'il est bon quand même de le faire parce que Jésus-Christ l'a fait dans un moment si difficile. Sa bonne habitude, il l'a gardée même dans les moments difficiles. Alors, on peut comme voir ici des traits communs chez ces 6 exemples, c'est que ils expriment leur gratitude au milieu de la souffrance. Ils sont capables d'être reconnaissants même dans la souffrance. Ils expriment la gratitude aussi comme une invitation pour nous à faire de même. Que c'est la gratitude s'exprime en remerciant Dieu, en apprenant même, je dirais, à chanter à Dieu dans des circonstances difficiles. On en a des exemples ailleurs. On se souvient par exemple de Paul qui est en prison avec Sylvain et qui, malgré le fait que leur corps est endolori par les coups qu'ils avaient reçus, un peu comme nos frères au Bangladesh, ils étaient emprisonnés en plus, mais ils ont quand même chanté dans les cantiques. Il faut le faire, frères et sœurs. Essayez ça quand ça ne va pas bien de chanter les cantiques à Dieu. C'est une façon d'exprimer notre gratitude et notre foi en même temps. Un autre élément qu'on voit en commun, c'est cette capacité de voir que Dieu est présent dans nos prières. Il remercie, Jésus-Christ a remercié Dieu, je te remercie de ce que tu m'entends toujours. En ayant parfois le mot exaucé, je pense que ça cache un peu ce que Jésus-Christ veut dire. C'est que Dieu, peu importe comment tu vas répondre à ma prière, tu m'as entendu. Peut-être que moi, je ne reconnaîtrai pas ta réponse, mais c'est mon problème. Peut-être que je ne recevrai pas comme je t'ai demandé, mais tu m'as entendu, ça me suffit. Parce que c'est pour mon bien que tu vas répondre à ta façon. Rapidement, quelques petits moyens, hein, d'exprimer notre gratitude. Et là, j'irai. Là, on a parlé des grandes choses, mais vous savez, souvent, exprimer notre gratitude, c'est de reconnaître dans les petites choses. J'ai entendu le chant de. Tantôt, la pièce musicale hein, qui était de Bobert, interprétée par Sophie Pepwood. C'est intéressant parce que j'avais pris sur l'Internet juste pour voir comment des fois les gens développaient leur gratitude, même dans le monde. Même dans le monde, parce que n'oublions pas que la fête de l'Action de grâce, c'est quand même dans le monde. Oui, il y avait un esprit chrétien souvent attaché à cette fête. Oui, souvent, il y avait une espèce d'habitude de remercier Dieu au repas, ce qui est très, très biblique. Mais quand même, on peut apprendre des leçons de tout le monde sur la gratitude, si il l'exprime. Alors, Le fait que nous, aujourd'hui, nous avons de la neige. Alors, moi, je remercie Dieu d'avoir de la neige. Je ne dis pas, ah, oh, Dieu, tu n'aurais pas dû envoyer de la neige. C'est impossible pour moi de dire ça. Si je vis au Québec et qu'il n'y a pas de neige, là, je vais m'inquiéter. Même, il faut que j'apprenne. En fait, je dois apprendre à aimer la neige. Sinon, je serais mieux de déménager. Mais c'est impossible. Alors, si je ne peux pas déménager, j'apprends à remercier Dieu pour la neige. Comme cette chanson-là, remercier Dieu pour la chute des feuilles d'automne. Mais c'est merveilleux, hein, le sentir les feuilles de l'automne quand on marche en forêt. On entend le craquement des feuilles, puis, hein, l'odeur de cet humus nouveau qui est en train de se développer. Mais ça prend une expression de gratitude. Je crois que la gratitude vient quand on reconnaît les choses. On a donc la reconnaissance. Alors, on voit ça que les gens, parfois, vont avoir des petites façons d'exprimer leur gratitude. Juste des fois, il y a une personne ici qui exprime, elle dit, moi, elle dit juste mettre les mains dans l'humus, dans la terre. Elle dit ça me fait du bien parce que je me rappelle le dicton. Elle appelle un dicton, elle sait pas que c'est un passage biblique. Vous récoltez ce que vous semez. Oui, elle ne sait pas, mais elle est en train de citer les Écritures. Elle est en contact avec ce principe qu'elle remercie Dieu pour cette loi-là qui s'appelle « Vous récoltez ce que vous semez ». Parce qu'elle aime ça jardiner. Voyez-vous? Une chose que j'ai pratiquée avec les années, c'est écrire 5 choses par jour pour lesquelles je remercie Dieu. Et heureusement que j'avais une bonne idée en partant parce que c'était ne cherche pas de midi à 14 heures, regarde les petites choses que tu as aimées aujourd'hui. Par exemple, si j'avais eu au déjeuner du pain doré à la cannelle, pour moi c'est merveilleux, là, ben, je le reconnaissais comme étant un sujet de reconnaissance. Et je relis ça de temps en temps, les 5 choses par jour. Vous savez, à tous les jours, ça fait pas mal de choses par année, ça. On est rendu dans les quoi, les 1700, 1800 choses par année. Et il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent. Ben oui, c'est des choses que j'aime. C'est normal. Merci Dieu pour mon épouse. Merci Dieu pour la nuit que nous avons passée ensemble. Vous savez, ben, c'est pas mal passer les nuits ensemble, tous les jours, oui, mais c'est quand même merveilleux. Voyez-vous, c'est la reconnaissance, même dans les choses qui se répètent. C'est un peu ça qu'on fait sur les repas, hein? Donc, un journal de gratitude, c'est très utile. Remercier quelqu'un qui est important dans notre vie. A dit, cette personne a dit, j'envoie parfois des petites cartes qui parlent selon ce que chacun aime. Alors, remercier quelqu'un qui est important dans notre vie, un ami, un collègue de travail, il a fait quelque chose pour nous, on le remercie. Inviter un ami ou un collègue à déjeuner pour les remercier de ce qu'ils vous ont donné, de ce qu'ils vous apportent, et leur dire, ça je suis intéressant, il dit, il faut leur dire merci pour ça. Vous allez dire, ben, ils savent s'ils l'ont donné le cadeau. Il y a toujours un petit doute, vous savez, quand on fait un cadeau, que est-ce qu'on a vraiment donné le cadeau que la personne aurait aimé avoir? Alors, quand la personne dit, merci pour ce cadeau que tu m'as donné, merci pour ce parfum que tu m'as acheté, ben là, on dit, ouais, ben, au moins, elle a reconnu que c'était du parfum. C'est donc ça, ça me rassure. C'est une loi, on confirme, c'est une loi de confirmation. En remerciant, on confirme que le geste était un bon geste. L'intention est une bonne intention et le cœur est un bon cœur. Partager notre talent et notre bénédiction avec les autres. Alors parfois, c'est simplement décider de donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas quelque chose qu'on a reçu par quelqu'un qu'on ne connaissait pas aussi. C'est ce qu'on fait en envoyant nos dîmes en passant. On ne connaît pas, frères et sœurs, qui va être touché. par la littérature qu'on envoie ou par l'émission de télévision. Mais vous savez, il y a des guérisons qui sont là. Il y a des cœurs brisés qui sont consolés. Oui, peut-être, ils ne sont pas encore, ils n'ont pas le fruit de consacrer leur vie à Dieu, mais ils ont des moments de joie, des moments d'espoir. On a sauvé des vies parfois de suicide. Et on le saura. Dieu prend note pour vous. Alors, toutes ces petites choses pour conclure, par la reconnaissance que Dieu développe en nous. Dieu pourra dire fièrement, mes enfants ont été reconnaissants même pendant les temps difficiles de la faim, cette période où les gens étaient ingrats. Eux, ils étaient reconnaissants.